Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Adrien Broche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des études politiques à Via Voice, qui était un institut de sondage, et vous êtes l'auteur de Portrait moderne de la gauche française, un livre publié par les éditions de l'Aube. Ce dimanche, c'était la bataille des meetings, sur tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, avec un point commun, la condamnation en première instance de Marine Le Pen lundi dernier, peine de prison et inéligibilité immédiate qui a secoué le paysage politique à 2 ans de l'élection présidentielle et donc encore aujourd'hui. Les partisans du RN se retrouvaient, eux, place Vauban. C'est dans le 7e arrondissement de Paris, ils protestaient, et voici comment Marine Le Pen a qualifié sa condamnation pour détournement de fonds publics.
Je ne lâcherai rien pour le jugement dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice! C'est une décision politique. Voilà donc qu'il faudrait m'éliminer de la vie politique. Sans voie de recours possible. Au nom d'un soi-disant trouble à l'ordre public démocratique, concept purement et simplement inventé pour l'occasion. Pardon, mais le principal et même l'unique trouble à l'ordre public démocratique, c'est bien celui qui consiste à empêcher l'unique souverain, le peuple, de s'exprimer. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Ce serait nous qui serions un danger pour la démocratie et l'état de droit. Je le dis et le redis solennellement ici. C'est nous qui sommes les plus fervents défenseurs, les plus ardents protecteurs de la démocratie et de l'état de droit. Alors mes amis, n'oubliez jamais les raisons pour lesquelles ils nous attaquent si durement, avec tant de déloyauté. N'oubliez jamais qu'ils ne font cela que pour une seule raison. Nous sommes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner!
Et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a de son côté accusé le RN de s'attaquer aux juges et aux institutions de la France. Avec la manifestation donc de ce parti d'extrême droite, le président du parti Renaissance.
Gardons intact cet attachement à la moralisation de la vie politique et à nos institutions au moment où elles sont contestées par l'extrême droite qui se réunit aujourd'hui pour attaquer nos juges. Nous ici, nous ne disqualifierons jamais une décision de justice. Nous ne dirons jamais qu'il y a des juges rouges, des juges blancs, des juges autres, surtout dans un moment comme on traverse aujourd'hui, où tout est contesté.
Adrien Broche, Marine Le Pen parle d'une décision politique, la meilleure défense étant l'attaque. Est-ce qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'être offensive depuis l'annonce de la décision du tribunal correctionnel de Paris ?
Alors, pas d'autre choix, je ne sais pas, en tout cas politiquement, effectivement, c'est pour l'instant le choix qui a été pris. Je dis peut-être qu'elle avait une autre voie, puisque à écouter les juristes, il y a aussi ce qui a été mis en avant par la justice pour justifier l'exécution provisoire, c'est justement la dénégation des faits dans leur globalité, qui serait allée contre le cas de Marine Le Pen et qui aurait aggravé en l'occurrence son cas en entraînant l'exécution provisoire. Donc peut-être qu'elle pourrait aussi gagner à jouer, au contraire, sur le plus long terme, une espèce de reconnaissance des faits pour atténuer, en gros, sa peine. En tout cas, effectivement, on est sorti un petit peu du débat technique et juridique dans lequel on était depuis le début de la semaine. On est en plein dedans, l'instrumentalisation politique, la récupération, au sens quasiment, pour le coup, noble du terme. C'est normal qu'elle agisse comme ça, j'ai envie de dire. Et on voit, effectivement, on était plutôt préservé en France de la pénétration d'un certain nombre d'affects, comme on dit aujourd'hui, trumpiens, trumpistes, sur justement le rapport un petit peu complexe à la vérité des faits. On commence à mettre un pied dedans.
Elle joue la victimisation et justement, pour reprendre ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des relents de trumpisme, qui lui ne cesse de critiquer la justice de son pays, clame que l'élection lui a été volée quand Joe Biden était arrivé à la Maison Blanche. On entend à peu près les mêmes arguments dans la bouche de Marine Le Pen et de Jordan Bardella.
Oui, c'est vrai que sur le fond, on est. Alors sur cette question du rapport à la justice, vraiment dans des éléments qu'on a pu constater outre-Atlantique, avec quand même, malgré tout, quand on écoute son discours, des éléments qui restent un petit peu plus rationnels, là où effectivement, quand on écoute Donald Trump, c'est encore un autre niveau dans le rapport aux faits, puisque notamment Marine Le Pen soutient de loin, évidemment, mais la juge qui est menacée, attaquée, etc. Donc elle essaye quand même de tenir une forme de rapport sain, j'allais dire, à quelques éléments restants de la démocratie libérale et au fait qu'on n'attaque pas et qu'on ne menace pas des juges comme ça. En revanche, c'est vrai que sur le fond, on commence à être dans un rapport de plus en plus compliqué qui vient effectivement, l'extrême droite et qui vient aussi parfois de l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'extrême gauche. Alors, politologiquement, il faudrait définir, mais de plus en plus présent, effectivement, dans le débat politique.
On ira voir tout à l'heure ce qui s'est passé, justement, du côté de la France insoumise. Raphaël Delvolvé, vous étiez tout à l'heure place Vauban.
Bonsoir.
Du service politique de RFI. La victimisation, c'est le mot que tout le monde avait à la
alors,
bouche.
C'était total. Hein, ouais. Quand on prend toutes les prises de parole, il y en a eu quatre. Louis Alliot, ouais. Le maire de Perpignan, qui a d'ailleurs été condamné en même temps que Marine Le Pen, sans exécution provisoire.
Éric Ciotti.
Éric Ciotti, le seul allié à ce jour du Rassemblement National. Jordan Bardella et Marine Le Pen. Tout a tourné autour de ça. Nous sommes victimes, non pas d'une décision de justice, mais d'une décision politique. Donc oui, c'était l'enjeu aujourd'hui. On notera d'ailleurs que Marine Le Pen est quelque part prisonnière de cette condamnation, en tout cas, même si elle a fait appel, qui a été prononcée lundi dernier. C'est qu'elle ne peut pas avancer beaucoup dans les idées. Son discours a fait à peu près une demi-heure tout à l'heure, on avait un peu l'impression qu'elle se répétait sous différentes formes. Ce qu'elle sait très bien faire d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, l'avocate qui est en elle se réveille hein, et se révèle dans ces moments-là. Mais c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait une forme de blocage. Voilà. Elle ne se projette pas au-delà de cette décision de la Cour d'appel prévue pour l'été 2026.
Et donc un nouveau procès dans un an, avec un arrêt de la Cour d'appel rendu à l'été 2026. Donc, ce qui potentiellement permettrait à Marine Le Pen d'être candidate à la présidentielle de 2027. Cela dit, se pose la question d'un plan B, obligatoirement, plan B comme Bardella.
Alors ça c'est évidemment ce qui venait à l'esprit de tout le monde. Hein. Dès lundi, tout le monde a compris que Marine Le Pen ne serait pas candidate, ce qui n'est pas tout à fait exact, vous l'avez dit, il y a ce jugement en appel dans un an, mais c'est un trou de souris qui reste à Marine Le Pen. Il faudrait que la Cour d'appel soit retire l'exécution provisoire, soit retire la peine d'inéligibilité. Rien ne l'assure pour l'instant. Et c'est vrai que l'hypothèse Bardella vient tout de suite en tête. Toutefois, c'est pas si évident que cela.
Hein. Adrien Broche, on pourrait penser une inversion de ce qui avait été conçu jusque-là. C'est-à-dire Marine Le Pen à l'Élysée, Bardella à Matignon. Là, ce serait l'inverse. Ça pourrait être l'inverse.
Ça pourrait être l'inverse. En réalité, on n'en sait pas grand-chose encore, effectivement. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que peut apporter Jordan Bardella au Rassemblement National que Marine Le Pen ne pouvait pas le faire, et au contraire, là où il peut faire perdre le parti. Quoi. Donc il y a effectivement, dans cette fameuse stratégie de long terme de normalisation, de dédiabolisation, qui est partiellement coupée, actuellement, la question de la marque Le Pen, qui restait effectivement un enjeu difficile pour le parti. Elle avait considérablement, évidemment, atténué cela, mais ça restait quand même. Jordan Bardella pourrait accélérer encore ce mouvement-là. Et puis, j'allais dire, point très rapide, idéologie, sociologie, Jordan Bardella est sur une ligne, si c'est un peu surestimé le poids des lignes idéologiques, mais disons qu'il parvenait à capter une partie d'un électorat plutôt cadre CSP+, qui était encore très rétif au marinisme et à la ligne du parti entamé au début des années 2010 avec Florent Philippot sur cette espèce de mue sociale souverainiste. Donc là-dessus, ça peut aussi être un point sociologiquement, électoralement intéressant.
En tout cas, rien n'est fait, d'autant que Jordan Bardella, Raphaël, président du RN depuis 2 ans et demi, ne fait pas l'unanimité au sein du parti.
Non, on n'en est qu'au début, hein, mais on commence à jouer, vous savez, au jeu des 7 différences, et s'il y en a une majeure entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, outre les questions de ligne politique hein, qu'on peut effectivement esquisser, il y en a une qui est plus à gauche, Marine Le Pen, un plus à droite, je vulgarise, hein, je synthétise Jordan Bardella. La marque Le Pen dont vous parliez, elle est aussi synonyme d'autorité au sein du Rassemblement National. C'est un fonctionnement très vertical, le Rassemblement National. Dès lors, et on peut faire le parallèle avec n'importe quel dictature, je mets des guillemets, hein, qui s'effondrerait derrière, et c'est ce qui va se passer à mesure que le procès d'appel sera médiatisé, vous verrez qu'il y a une guerre interne qui est inéluctable, à mon avis, au sein du Rassemblement National. Non, Jordan Bardella ne fait pas l'unanimité comme Marine Le Pen. Elle décide, ils exécutent avec Jordan Bardella. Pardon, Philippe, je fais pas loin, je vous promets. On s'en est aperçu lors de après la dissolution et ces élections législatives, malgré tout, manquées par le Rassemblement National. Vous avez le cercle proche de Marine Le Pen, pour faire simple, Jean-Philippe Tanguy, Sébastien Chenu, Philippe Olivier, qui distillaient, vous savez, les fameux « off », plutôt ouais. médisant à l'encontre de Jordan ouais. Bardella, ce qui a valu d'ailleurs plusieurs règlements de compte assez sévères entre eux.
Et il faut savoir aussi qu'il y a en embuscade Marion Maréchal qui a fait une déclaration hier en disant que ça pourrait se jouer entre elle et Jordan Bardella.
Alors, si vous regardez la liste des sondages, vous avez Marine Le Pen très haut, vous avez Jordan Bardella pas très loin derrière, et tout de suite après, c'est effectivement Marion Maréchal. Et on en revient un peu à la marque Le Pen, d'ailleurs.
À la marque Le Pen et à la question des lignes idéologiques et politiques, parce que Marion Maréchal n'est pas aussi tout à fait là sur la même ligne que ce qui est parfois considéré au sein de l'extrême droite française comme l'ouvriérisme mariniste, quoi. C'est pas tout à fait la même sociologie électorale à laquelle elle s'adresse. La place de la religion, par exemple, est beaucoup plus importante dans le conservatisme sociétal de Marion Maréchal Le Pen que chez Marine Le Pen. Donc il y aurait aussi là des enjeux très intéressants sur le fond de lignes politiques et intellectuelles.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplin.
Alors que le RN réunissait ses troupes au pied des Invalides, une partie de la gauche, LFI et écologiste, a manifesté place de la République pour défendre ce qu'elle considère comme des attaques contre l'état de droit et l'indépendance de la justice. Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, a pris le micro.
Il était impossible pour nous de considérer que quand l'extrême droite essaye de s'emparer de nos rues, que ça ne donne pas lieu à une réaction, à une riposte populaire. Et aujourd'hui, par ce rassemblement, c'est la première étape de cette réponse et de cette réaction. Parce que quand on connaît un peu l'histoire, on sait que quand l'extrême droite commence à annoncer qu'elle va défiler, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la démocratie, c'est qu'il y a un parfum et une odeur mauvaise pour la République, et que si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour dire on empêchera toujours l'extrême droite de s'attaquer à la République et à la démocratie, et on sera toujours là pour faire barrage, pour faire bloc, et c'est le sens de notre présence aujourd'hui.
Autre prise de parole, celle de Manon Aubry, qui est députée européenne de la France Insoumise.
La mobilisation, elle a un seul objectif, c'est de préserver l'indépendance de la justice, de préserver l'état de droit qui est aujourd'hui mis en cause par le Rassemblement National. Et au niveau européen, ces termes sont ceux qui sont repris par Viktor Orban, qui sont repris au niveau international par Elon Musk et par Donald Trump. Donc dis-moi qui te soutient, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, le Rassemblement National s'inscrit dans cet arc réactionnaire au niveau international. Ils montrent une nouvelle fois leur vrai visage. Et nous, nous ripostons aujourd'hui, comme nous riposterons demain dans les urnes. Mais je crois que c'est un peu tôt encore pour parler de point de départ de l'élection présidentielle.
Alors la gauche, le Rassemblement National, le camp présidentiel, chacun dans son couloir, mais tous manifestent leur attachement à l'état de droit et la démocratie, à leurs yeux menacés pour des raisons différentes. Adrien Broche, ça fait des différences et paradoxalement des points communs.
Oui, tout à fait. Et ça participe bien de ce caractère très particulier de la politique contemporaine, qui est une espèce de brouillage des repères, évidemment idéologique, mais même dans le lexique, puisqu'on l'a vu tout au long de la semaine. Les uns s'accusent d'illibéralisme. Donc Marine Le Pen accuse les juges de porter atteinte à la démocratie libérale en surpassant leur pouvoir. Évidemment, la gauche et le bloc central accuse l'extrême droite d'illibéralisme en l'accusant de contester justement les règles de la démocratie libérale. C'est le cas sur l'état de droit, c'était très frappant aujourd'hui. Sur le pupitre de Gabriel Attal, il y avait marqué
pour
la démocratie. Et sur le pupitre de Marine Le Pen, il y avait marqué quelque chose aussi comme défendre la démocratie.
Sauvons la démocratie.
Sauvons la démocratie. Exactement. Merci.
Mais justement, puisque vous parlez de Gabriel Attal, on va l'écouter une nouvelle fois. Parce que pendant ce temps-là, à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, une réunion publique était prévue de longue date. Elle rassemblait les classiques du camp présidentiel, dont le Premier ministre François Bayrou. Et là encore, Gabriel Attal a tiré, mais alors à boulet rouge, sur le RN.
Marine Le Pen et le Rassemblement National ont été reconnus coupables, après 10 ans d'enquête et de procédure, d'avoir détourné des millions d'euros de nos impôts. Que le Rassemblement National utilise les impôts des Français pour payer un majordome à Jean-Marie Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Que le Rassemblement National utilise les impôts des Français pour salarier la famille de Madame Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Que dire quand Marine Le Pen ose se comparer à Alexei Navalny, cet opposant russe à Vladimir Poutine, assassiné par le régime? Que dire
Que dire alors même que les liens de son parti avec le Kremlin sont établis, alors même que ses élus ont voté contre le soutien à Navalny au Parlement européen? Je le dis ici, Madame Le Pen, vous n'êtes pas Alexei Navalny. Vous êtes l'un des pions de son bourreau. Après avoir accepté d'être un pion du poutinisme, le RN se vit maintenant comme un prestataire de service du trumpisme en France. Alors nous, mes amis, nous n'allons pas nous laisser impressionner. Cette extrême droite, comme l'extrême gauche de LFI, nous la combattons.
Et Gabriel Attal a également fustigé une ingérence sans précédent dans le soutien de Donald Trump, Vladimir Poutine, Viktor Orban à Marine Le Pen. Il faut dire que Place Vauban, sur les grands écrans, ont été diffusés les messages enregistrés de plusieurs personnalités européennes, dont justement le Premier ministre hongrois, Raphaël Delvolvé, et le vice-président du Conseil italien, Matteo Salvini. Et puis hier, le Premier ministre, François Bayrou, ou plutôt aujourd'hui, dans une interview au Parisien, il déclare que le soutien apporté par le président américain Marine Le Pen, c'est une ingérence. Ça veut dire que le parti de l'étranger, c'est une ancienne dans la vie politique française, Adrien Broche de Via Voice.
Oui, c'est vrai que c'est une accusation. Très ancienne et j'allais dire qui prend des formes différentes puisque bon, dans le contexte révolutionnaire, elle naît plutôt de la gauche vers à l'égard de la bourgeoisie. Elle est dans la politique moderne contemporaine en France souvent utilisée par l'extrême droite s'adressant à la gauche au sens parti de l'étranger, islamo-gauchiste pour les intérêts étrangers. Maintenant, elle avait été plus ou moins, alors pas sur ce lexique qui est, on le voit, un lexique très dangereux à utiliser, mais disons que l'idée parti de l'étranger avait été récupérée notamment par une partie de la gauche démocratique au moment des élections européennes. Raphaël Glucksmann accusait beaucoup Marine Le Pen d'être, vous vous rappelez, une patriote de pacotille, de desservir les intérêts. Gabriel Attal s'aligne un petit peu sur cette contre-attaque-là, cette dispute sur l'argument du patriotisme et de la souveraineté aussi, parce qu'on voit que le Rassemblement national est pris dans une forme de contradiction, parti souverainiste mais qui porte atteinte aux intérêts souverains de la France, ou plutôt qui copine avec des partis qui souhaitent porter atteinte à la souveraineté nationale. Donc il y a cette contradiction-là qui est un jeu politique, effectivement.
Et puis à cette réunion organisée par Gabriel Attal, il a été question de fusionner le MoDem, le parti de François Bayrou et la formation d'Emmanuel Macron, Victorien Vuillaume, qui était sur place pour RFI.
Fusionner Renaissance et MoDem, bonne idée pour François et Romain.
Puisque c'est les mêmes lignes politiques au niveau Europe, au niveau économie, ça permettrait d'avoir plus de force. Avoir deux formations identiques avec les mêmes lignes politiques, ça n'a pas de sens.
On partage les gouvernements depuis quelques temps déjà avec eux et ça se passe toujours très bien. Et je pense qu'on est deux partis vraiment liés et unis.
Il faudrait toutefois veiller à une juste répartition des postes, explique Nicolas Bertrand, président Renaissance du Loiret.
Il y a surtout une question de gouvernance.
Alors l'idée n'est pas nouvelle, une fusion MoDem-Renaissance avait déjà été évoquée avant la présidentielle de 2022. Et si elle se concrétise, ça ne sera pas une révolution pour le bloc central, estime Paul, jeune militant fraîchement encarté.
L'important, à mon sens, pour l'élection de 2027, c'est d'avoir un candidat commun.
Cette idée de fusion, Gabriel Attal en tout cas ne compte pas la commenter ce dimanche. Les forces du bloc central doivent d'abord discuter du fond, affirme-t-on dans l'entourage de l'ancien Premier ministre.
Alors justement, Adrien Broche, renforcer un bloc central qui se serait affaibli au fil des mois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ce serait la manœuvre ?
Oui, ce serait une des manœuvres, évidemment, ça suffira pas, mais c'est d'abord effectivement renforcé, clarifié aussi je pense, parce qu'effectivement cette espèce d'inflation des lignes, on est dans une situation très particulière en France aujourd'hui, où on a une inflation des candidatures potentielles et des lignes dans un espace très restreint qui est en gros du centre-gauche au centre-droit, avec une multiplication des candidatures possibles, on entend et aujourd'hui Édouard Philippe prenait un rassemblement qui aille de la social-démocratie jusqu'à la droite dite républicaine, on voit effectivement qu'un Raphaël Glucksmann va plutôt picorer sur un électorat centriste, centre-gauche, voire centre-droit, qu'aller vraiment chercher sur les candidatures Mélenchon. Donc, dans cet espace politique assez restreint, se joue énormément de choses et vont influencer, évidemment, d'abord le seuil de qualification au second tour à l'élection présidentielle et puis les dynamiques des candidats. Donc, c'est surtout ça, il me semble, qui est très intéressant de ce point de vue-là.
Raphaël,
Philippe, quand on regarde aujourd'hui, il y avait donc une partie de la gauche qui se rassemblait, l'extrême droite et le centre. En fait, on avait les trois grands blocs qui s'affronteront dans 2 ans. Je note tout de même, et il faut souligner tout de même, qu'il faisait très beau aujourd'hui à Paris et qu'ils vont se tirer la bourre entre eux pour savoir qui avait le plus de personnes.